Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chute, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chute, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence. Chute, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marais Morin en écoutant Chute, on écoute la télé. Marais Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marais-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chute, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors vous savez pas ? Eh bien on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien oui, c'est parti.
Chute, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, au sommaire de ce tout nouveau numéro de Chute, on écoute la télé, l'hebdo pour ce 10 novembre, deux coups de cœur ciné, événement cette semaine avec le premier consacré au film Les Rêveurs qui sortira mercredi dans les salles. Nous allons avoir le grand bonheur de recevoir sa réalisatrice dans ses le premier film, Isabelle Carré. Mais c'est pas son premier film en tant qu'actrice, hein. Elle nous rejoint dans une poignée de secondes. Tessa Dumont-Janod également sera avec nous. Elle joue le rôle d'Isabelle Jeune. On découvrira tout ça dans quelques instants. Le Gang des Amazones également, deuxième film à ne pas manquer mercredi au cinéma. Mélissa Drijard sera avec nous avec trois de ses Amazones. Oui, Kenza Fortas, Mallory Wanek et Izzy Higelin seront nos invités exceptionnels aujourd'hui. Et puis Désenchanté également, c'est la mini-série événement de France 2 qui sera diffusée dès mercredi soir à 21h10. Carole Delaval, la productrice, David Ourègue, le réalisateur, Constance Labbé seront avec nous tous les trois pour en parler. Et puis enfin, nous allons parler de Prisonnière également, qui sera diffusée à 20h50 jeudi sur Ciné Plus Frisson avec Mélanie Bernier qui sera notre invitée en fin d'émission, accompagnée de Chloé Gavard, sa productrice. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer aujourd'hui. Beaucoup de beau monde. C'est parti.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
C'est notre coup de cœur ciné cette semaine, ça s'appelle Les Rêveurs, ça sort mercredi au cinéma. Premier film d'Isabelle Carré, qu'on connaissait déjà évidemment comédienne. Et vous allez voir un film tout en sensibilité, comme on la connaît si bien Isabelle. Et on a la chance qu'elle soit avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Pour une grande émotive que tu es Isabelle. Oui. Là tu nous livres un film plein de sensibilité, très personnel, adapté de ton roman, où on va y découvrir en fait ton adolescence en quelque sorte.
Oui, c'est donc une adaptation de mon premier roman Les Rêveurs, mais évidemment je pouvais pas prendre les 350 pages, il a fallu choisir. Et c'est au moment du confinement en 2020, je me suis dit mais au fond il y a beaucoup de jeunes qui souffrent, qui ont souffert pendant ce confinement, il y a eu beaucoup d'appels de détresse de leur part. Et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que d'être adolescent aujourd'hui ? C'est quand même pas simple, hein, entre le réchauffement climatique, les conflits internationaux,
les réseaux sociaux.
Les réseaux sociaux, les rapports hommes-femmes, dont on pense qu'avec MeToo, les choses se sont quand même beaucoup améliorées, mais qui demeurent quand même beaucoup en question pour les jeunes. Donc il y a beaucoup de dossiers, j'ai envie de dire, de choses à porter pour eux. Même si MeToo, évidemment, a fait beaucoup de bien et continue à en faire, mais il y a encore beaucoup de marge de progrès. Par exemple, pourquoi les jeunes filles commencent dans leur métier professionnel seraient moins payées que les jeunes hommes. Bon, il y a toutes ces questions-là qui traversent. Parce que je dis ça parce que c'est surtout les jeunes filles, en fait, qui souffrent beaucoup aujourd'hui. Il y a un chiffre, c'est 22% d'augmentation des gestes d'automutilation chez les jeunes filles de 10 à 14 ans dans les années 2023-2024. Donc, et mon film, je le termine par ce chiffre aussi qui est assez éloquent et qui fait froid dans le dos. 247%, c'est le chiffre d'augmentation en pourcentage des tentatives de suicide ces 10 dernières années chez les filles les jeunes filles de 10 à 15 ans. Voilà. Et le film parle de ça. Mais alors, attention, je le dis, c'est un film justement pour s'en sortir. C'est un film, moi je suis passée par là effectivement quand j'étais adolescente, quand j'avais 14 ans, et c'est comment mettre en perspective mon expérience et celle des jeunes filles d'aujourd'hui, et des jeunes garçons aussi, mais voilà, leur donner les clés pour retrouver un peu le goût de la vie, et nous aussi, hein, tous, hein, pour se dire que la vie est belle.
Le film commence comme ça, tu y joues Elisabeth qui va aller rendre visite à des jeunes qui ont des problèmes psychologiques à l'hôpital Necker à Paris. Et donc devant l'adversité de ces jeunes, et puis des fois, voilà, ils t'écoutent pas vraiment, etc. À un moment donné, on sent une bascule où tu leur expliques que voilà, tu as été là toi aussi à leur place. Mmh. Et là, on te retrouve basculé effectivement à 14 ans avec une jeune actrice absolument incroyable qu'on va essayer d'avoir là d'ici quelques instants justement avec nous, qui s'appelle Tessa. Elle est incroyable.
Bah, tous les acteurs du film sont vraiment incroyables. Mais Tessa, c'était fou parce que la directrice de casting m'a présenté, c'était la première fois qu'on se voyait, plusieurs jeunes filles. Et j'ai dit, attends. Il y en avait une dizaine. C'était au tout début, hein. Je dis, reviens à la première. Elle avait glissé dessus. Je dis, mais on peut cliquer, on peut ouvrir le lien.
C'est tellement toi, Tessa.
Et je me suis vue.
Ah, mais c'est une évidence, ça. C'est tellement toi.
Et en plus, ce qui était fou, c'est qu'elle racontait dans cette interview, dans cette petite chose qu'elle avait fait toute seule avec son téléphone, elle racontait qu'elle voulait être danseuse et qu'elle avait arrêté la danse parce que ça ne fonctionnait pas, qu'elle était trop petite ou voilà, qu'elle n'avait pas pu rentrer à l'Opéra de Paris. Et moi, je voulais être danseuse. Et donc, j'avais l'impression d'entendre mes mots. Puis ensuite, oui, toute notre complicité a été fantastique. Mais dans le film, il y a des enfants absolument merveilleux. La petite Mélissa aussi, qui joue la jeune Isker. Elle est d'ailleurs dans le film de Julia Ducournau, qu'elle a tourné juste après Les Rêveurs.
Pablo Poli, il est méconnaissable.
Fantastique. Il y a Judith Chemla. Il y a Nicole Garcia, qui m'a fait l'amitié aussi de jouer un rôle très important, puisque c'est un moment de bascule, un prof de théâtre qui va dire les mots qu'il faut, qui va dire exactement... Faut toujours avoir une main tendue, on en a tous besoin, qu'on aille bien ou qu'on aille pas bien d'ailleurs, et quelqu'un qui vous dit, mais moi j'ai confiance, tu vas y arriver, et c'est ce qu'elle fait pour cette jeune fille.
T'aurais pas rencontré cette personne? Ça serait peut-être pas du tout comme ça aujourd'hui. Ça aurait été plus difficile à s'en sortir.
J'en ai rencontré plusieurs, des personnes qui m'ont soutenue, mais c'est vrai que comme j'étais dans ce moment de fragilité, ça a été décisif en fait. Comme de voir le film de Romy Schneider, comme de découvrir le bonheur que ça pouvait être de jouer au théâtre. C'est un film qui parle aussi beaucoup de la façon dont on peut s'en sentir grâce à l'art. En général, la musique est très importante dans le film, d'où la rencontre avec mon frère Benoît Carré, qui a fait une musique extraordinaire, je trouve. Alors, vous le connaissez par le groupe Lily Cube, vous le connaissez aussi parce que grand spécialiste de l'IA et l'intelligence artificielle en musique. Mais c'est la première fois qu'il fait une musique de film. Il a livré un travail extraordinaire.
C'est plus facile, Isabelle, d'avoir fait le livre ou de faire le film? Qu'est-ce qui a été le plus facile des deux? De faire le film en deuxième, une fois que le livre a existé? Ou est-ce que c'était une autre aventure?
C'était vraiment une autre aventure. Pour moi, c'était plus compliqué de mettre en place le film par rapport au financement. Finalement, on a réussi et on a eu absolument ce qu'il fallait, mais c'était une bataille. Et c'est assez incroyable de se rendre compte que moi, qui suis quand même quelqu'un d'assez empathique, j'ai vu beaucoup de metteurs en scène à l'œuvre. Je sais pas, j'ai fait dans les 90 films à peu près. Je pensais connaître bien ce travail, mais c'est vraiment autre chose de le vivre. C'est quelque chose auquel je m'attendais pas. Je m'attendais à être touchée pendant le tournage, peut-être même davantage. Alors que pendant le tournage, j'étais focus, j'étais vraiment concentrée sur mon objectif. L'émotion, en fait, elle arrive maintenant à la sortie.
Mais c'est normal parce qu'en plus, tu as les premiers retours du public et puis c'est une histoire qui t'appartient. Donc quand tu vois que le public se l'approprie, c'est toujours c'est quelque chose d'hyper émouvant.
Et puis ce que je disais par rapport aux jeunes et à leurs souffrances, et il y a beaucoup de parents qui viennent me voir et qui me disent que le film leur a fait du bien à leur enfant. Ah, que demander de plus? C'est exactement le but du film pour moi. C'est de me dire, les mains tendues que j'ai reçues quand j'étais adolescente et qui m'ont sauvé la vie, parce que c'est de ça dont il s'agit, si le film peut produire ça pour quelques jeunes, ne serait-ce qu'une poignée de jeunes, ne serait-ce que qu'une personne, mais c'est gagné en fait. Et c'est vrai que quand j'entends que ça peut aider, que ça a remis de l'espoir à des enfants, à des adolescents et à leurs parents, alors là, toutes les difficultés qu'on a eues à monter le film sont complètement effacées. Et je pense qu'au bonheur, qu'on a eu à le tourner, au bonheur qu'on a
partagé avec le public aujourd'hui.
En ce moment, ouais.
C'est ça qui est génial. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement aux jeunes qui sont un peu en errance, qui vivent des moments difficiles? Est-ce que il est important qu'ils trouvent peut-être cette porte de sortie? Alors que peut être l'art, mais ça peut être le sport, ça peut être plein de choses.
Exactement. C'est tout à fait ça. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire chacun doit trouver son endroit. Et parfois, on peut. Moi, c'était la danse. Je me suis obstinée à un endroit qui n'était pas pour moi. Ben voilà, c'était juste l'aiguillage d'à côté, en fait. C'était c'était quand même la scène, mais pour le théâtre. Et parfois, accepter de renoncer, de trouver, de faire un petit détour. Et chacun trouve sa place finalement. Donc, ce que je leur dirais, c'est ne t'inquiète pas, ça passe. Ça, c'est très important de le dire, parce que quand on est jeune et qu'on est dans une forme de désespérance, dans une douleur, dans une souffrance, on a l'impression que ça sera à vie, que tout est sclérosé, que ça sera comme ça pour toujours. Non, ça passe.
Les choses sont pas figées.
Les choses sont pas figées, ça passe. Et en fait, ce que tu as traversé à ce moment-là va t'enrichir en tant qu'être humain. Tu seras beaucoup plus empathique, beaucoup plus intelligent dans tes relations avec les autres. Tu seras beaucoup plus sensible à la fragilité des autres, donc plus à l'écoute. C'est une expérience qui, je sais pas, si tu travailleras dans une entreprise, ça t'aidera à gérer les conflits en entreprise. Si tu fais de l'art, t'auras des choses à exprimer de ta sensibilité. Même si t'as traversé ce moment-là qui te semble compliqué, au contraire, ça sera vraiment un terreau incroyable pour toi. C'est ce que dit d'une manière extraordinaire, et c'est elle d'ailleurs, c'est le seul mot qu'un acteur a voulu rajouter dans le scénario. C'est Nicole Garcia qui les a rajoutés. Tes blessures, tes souffrances vont pas t'abandonner, jamais. Sans le savoir, tu vas puiser en elles, et c'est ça qui va faire de toi une actrice. Et on peut le décliner, sans le savoir, tu vas puiser en elle et c'est ça qui va faire de toi un musicien. Tu vas puiser en elle et c'est ça qui va faire de toi une personne riche en fait, et complexe et sensible.
Merci pour ce beau message d'espoir, Isabelle. Je vous conseille vraiment en tout cas d'aller voir ce très joli film. Allez-y avec vos jeunes, allez-y avec vos ados, allez-y en famille pour découvrir Les Rêveurs au cinéma. On va écouter la bande-annonce évidemment, et puis on va essayer de trouver Tessa qui est dans Les Parages, et on essaye de revenir avec elle, parce que je veux vraiment mettre en lumière cette comédienne qui est incroyable, qui joue le rôle d'Elisabeth dans le film. Et vous allez voir, elle est absolument lumineuse.
Et quand on dit qu'on peut y aller en famille, c'est, j'ai fait vraiment très attention à ça. On parle de sujets délicats, on parle de sujets violents, durs, mais
avec beaucoup de pudeur.
Avec beaucoup de pudeur et de douceur même, et de beauté dans l'image. C'était très important pour moi de ne pas gratter la plaie, enfoncer les choses, mais au contraire, les adoucir, les alléger, aller vers une déstigmatisation et vers la lumière.
Exactement. Les Rêveurs, c'est mercredi au cinéma. On écoute. Merci Isabelle.
Merci.
Peut-être avant de commencer, je dois vous dire quelque chose. J'ai été internée ici quand j'avais votre âge.
Non, je reste pas ici.
Si, tu vas rester un petit peu ici.
Papa !
Dimanche, lundi. Je me souviens en CP, quand on apprenait à les écrire. Ces mots voulaient tous dire quelque chose.
Mais en fait, ils sont vides.
Tout est vide.
La Gestapo !
Comment ça se passe ce matin ?
Pourquoi je dois rester ici ?
Parce que tes parents ont peur que tu recommences.
C'est ta première fois, hein? T'as fait quoi? J'ai vidé l'armoire à pharmacie. Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous avez pas autre chose à foutre? Mais qu'est-ce qu'on se fait chier ici? Qu'est-ce que vous avez à nous proposer à part des cours de cuisine et des médocs?
Si je pouvais disparaître, si je pouvais fondre comme un sucre dans une tasse de thé.
Voilà, la bande-annonce, en tout cas, Les Rêveurs d'Isabelle Carré, premier film, ça y est, on l'a récupéré, elle est à côté de nous, Tessa Dumont-Janod, la révélation en tout cas de ce film qui est avec nous. Bonjour Tessa.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Du haut de tes 15 ans, t'es capable de faire chialer toute une salle. Franchement, tu nous as offert une prestation, mais de haut vol dans ce film. C'est ton premier rôle pour le cinéma et c'est ton premier rôle tout court.
Exactement, c'est mon premier film, premier tout en fait.
Est-ce que ça met une petite pression d'incarner quelque part la réalisatrice à l'âge que t'as aujourd'hui?
Je pense que ça met une pression dans le sens où comme c'est en face de nous, c'est différent. Mais je pense que ça peut mettre une pression pour quelqu'un d'autre, mais pas avec Isabelle. Ça n'existe pas, ça.
C'est vrai qu'elle est comment en tant que réalisatrice?
Que des bonnes ondes, honnêtement. Après, c'est sûr que c'est difficile, c'est vraiment quelque chose qui la touche personnellement. Mais vraiment que du bien, en fait. Hein. Vraiment, elle dirige bien, elle sait dire quand il faut stopper. Mais elle sait donner des libertés, laisser faire ce qu'on ressent, en fait.
C'est ça, qu'est-ce qui t'a décidé à y aller sur ce sujet compliqué du mal-être adolescent, hein, parce qu'on s'aperçoit que C'est pas qu'en 2025, hein, on est remonté assez loin, en tout cas sur l'époque que tu joues.
Bah en fait c'est l'ennui. C'est-à-dire que moi je vis un peu dans un désert, c'est-à-dire que je vis au fin fond de la Bretagne et en fait j'avais que ça à faire de ma vie d'adolescente, donc fallait bien trouver une occupation, donc bah je me retrouvais ici, tout simplement.
T'as commencé comment? T'as fait un peu de théâtre ou même pas? Comment ça s'est passé? Comment t'as été repérée?
Bah en fait avant j'habitais en région parisienne et il y avait une directrice de casting qui s'appelle Elsa Pharaon.
Une des plus grandes directrices de casting pour enfants.
Ah oui, elle est vraiment, c'est la plus grande de France, je pense. Je pense qu'en tout cas, elle est très renommée. Et elle était venue dans mon école de danse proposer des castings. J'en ai fait un ou deux, mais vraiment, j'étais trop jeune. Et en fait, elle m'a juste recontactée en 2023 et elle m'a proposé d'envoyer une vidéo. Et j'ai juste envoyé une vidéo, juste comme ça, en fait, c'est vraiment, ça m'est tombé dessus, quoi.
Alors, il est vrai que t'es quasiment sur toutes les scènes. On est allé sur 1h15, 1h20 du film. T'es sur tous les plans. Comment on fait? Est-ce qu'il faut trouver des subterfuges pour justement, bah parce qu'on sait que c'est limité au nombre d'heures à ton âge, par exemple sur un plateau?
Non, franchement, c'était toujours respecté. Ça, c'est sûr que Isabelle, le bien-être des jeunes, c'est vraiment primordial et en fait, on se dépêchait quoi. C'est tout. Il y a pas de l'équipe, elle était rapide. Pareil, ma doublure Satine, qui en fait faisait toutes les mises en place, on gagnait beaucoup de temps.
Ah, c'est ça le secret alors, le subterfuge, la doublure, la fameuse.
C'est ça, la doublure.
Alors, tu t'en es fait une copine de la doublure?
Oui, franchement, bah quand on y passe toute la journée avec, y a pas d'autre moyen, quoi.
Qu'est-ce que tu garderas comme souvenir de cette expérience?
Franchement, que du positif, beaucoup d'amitié.
Les premiers retours du public, t'as eu quelques projections en avant-première avant la sortie du film après-demain. Comment tu les as ressentis? Comment tu les as apprivoisés, ces retours-là?
Alors moi, j'ai vraiment, ça fait du bien d'entendre les gens rire déjà, parce que c'est pas forcément un sujet facile, mais ça, c'est une façon de relativiser, je pense. D'entendre des gens rigoler en plein, enfin, dans des scènes qui sont pas forcément très rigolotes. C'est ça aussi.
Il est traité avec beaucoup de pudeur, ce qu'on disait avec Isabelle il y a quelques instants. C'est vrai qu'il est traité avec une extrême pudeur. Il y a pourtant des scènes difficiles pour toi à jouer.
Pour ce qui est plutôt des scènes difficiles, je crois que je vois le genre dont on parle, qui sont plutôt intimes. On avait une coordinatrice d'intimité. Et pour moi, ça, je sais qu'il y en a pas sur tous les films, mais c'est très important. Je pense que ça devrait être même obligatoire, en fait.
Alors pour le coup, quelle a été la scène la plus difficile pour toi? Ou alors peut-être la plus marrante? Parce que comme on est sur un film sur la positivité aussi, est-ce qu'il y a une scène où il y a eu un gros fou rire, où t'as quelque chose à nous raconter?
Alors en fait, j'ai eu un gros fou rire mené par la fatigue dans une scène justement avec Renaud, au moment où il y a sa mère en fait qui débarque quand on est en train de discuter. Et à ce moment-là, je pense que j'ai jamais autant ri de ma vie. Et c'est pour ça qu'on voit qu'on rigole beaucoup en fait. J'ai du mal à parler sérieusement parce qu'on sourit en fait tout le long.
Face au prof de maths, à un moment donné, tu tournes la tête. On sent que t'es pas loin sur un début de rictus là à ce moment-là.
C'est ça, mais c'est qu'en fait surtout dans l'histoire, on disait qu'il sentait mauvais de la bouche. C'est pour ça que je détourne le regard en fait, c'est que ça sent mauvais quoi, simplement.
Le théorème de Thalès n'a plus de secret pour toi?
Ah non, moi ça y est, personne ne me testait pour le coup.
Bon, t'as envie de continuer?
Ouais, honnêtement ouais.
C'est quoi le plus beau rôle que tu rêverais là maintenant?
Un film étranger, pas forcément français je pense surtout, parce que je pense que c'est tellement des cultures différentes dans le cinéma que ça peut être très intéressant.
T'as raison, tu vois loin, tu vois haut, et t'as bien raison, en tout cas t'es ça. On te retrouve donc après-demain, c'est la sortie du film événement Les Rêveurs d'Isabelle Carré. On a passé un super moment en tout cas avec vous deux. Merci infiniment et merci pour toute l'émotion que tu nous as transmise et que tu as dégagée en tout cas. Et puis on se dit à bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.
Elisabeth, tu veux te marier avec moi?
Tu sais quoi Francis?
Quoi?
On va t'épouser toutes les deux.
Tu danses?
Bah alors habille-toi. Je danse pas avec un mec en pyjama, moi.
Calme-toi. Tes émotions, tes blessures ne vont pas t'abandonner. Jamais. Et sans le savoir, tu as puisé en elles. Et c'est ça qui va faire de toi une actrice.
Allez, dans un instant, notre deuxième coup de cœur ciné consacré aux gangs des Amazones, Kenza Fortas, Mallory Wenek, Izia Higelin et Mélissa Drijard nous rejoignent. À tout de suite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, revient dans un instant. À tout de suite. Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
J'ai la tête d'un gamin et je parle trop fort. Et si je râle pour rien, alors je râle encore. Y'a ce feu dans mes yeux qui veut cramer la vie. Je rêve alors je veux, j'ai pas l'âme à l'ennui. Je veux être aimé trop fort, exister dans vos yeux. Qu'on me dise que j'ai tort quand je pense à dire adieu. Je veux vous aimer beaucoup, au moins vous rendre. ma mère, tous les jours que Dieu fait, qu'on me traite de petit con, quand je dis non, peut-être, moi, ma génération, elle a le cœur à la fête, oui, j'ai l'âge des conneries. Un petit peu de vous, une pincée de vos rires, une pincée de vos mots doux. Ne me donnez pas tout, juste une larme de vos joues. Comme ça je serai là dans vos joies.
Rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio. Chute, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre gros coup de cœur cinéma cette semaine est consacré au film Le Gang des Amazones, un film pas raté, mercredi dans les salles, un film de Mélissa Drijard qu'on a eu déjà l'occasion de recevoir pour Tous nos souris et Hawaï. Elle est avec nous. Bonjour Mélissa.
Bonjour.
Et dans quelques instants, on va être rejoint d'ailleurs par Kenza Forta, Sizia Higelin et Mallory Wanek qui vont nous rejoindre. On va planter un petit peu le décor, l'histoire de ces Amazones. On remonte dans les années 90 et je crois que c'est qu'en écoutant un podcast de notre ami Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, que l'idée est venue, en tout cas, de faire un film sur ces Amazones.
Exactement. En fait, c'est mon co-auteur, Vincent Juillet, qui écoute ce podcast qu'on aime beaucoup, Affaires Sensibles. On découvre l'histoire du gang des Amazones qu'on ne connaissait absolument pas, comme beaucoup de gens d'ailleurs. Et je contacte l'une d'entre elles, Hélène Trinidad, que je retrouve grâce aux réseaux sociaux, à Facebook. Je l'appelle, j'envoie même pas de texto, en fait, j'appelle. Et je l'ai au téléphone et le contact se passe très bien. Puisque je vais deux jours plus tard, en fait, à l'Île-sur-la-Sorgue et je reste 15 jours avec elles pour essayer de les convaincre, en fait, de porter leur histoire au cinéma.
Elles se sont confiées assez facilement, ça a été difficile de les convaincre.
Elles se sont pas confiées facilement, elles ont mis du temps à, j'ai mis du temps, en fait, à avoir leur confiance. Mais elles avaient fait quand même le documentaire de Solveig Anspach il y a une vingtaine d'années, mais évidemment, comme elles étaient pas loin de leur procès, elles ne pouvaient pas livrer les mêmes choses qu'elles m'ont livrées à moi. Donc c'est ça qui est en fait très intéressant, c'est ce qu'elles ont pu enfin livrer 30 ans plus tard.
On entend les filles qui sont dans les starting blocks, hein, juste à côté, elles sont à fond, et les 5 comédiennes sont incroyables.
Oui.
Du coup, ces 5 comédiennes, comment on les choisit pour justement arriver à créer cet équilibre?
J'avais, quand j'écrivais le scénario, je pensais à Lina Koudry pour jouer Cathy. J'avais très envie de travailler en fait avec ces actrices. Vous savez, en fait, quand on est metteur en scène, en fait, on a envie de travailler avec des acteurs qu'on admire. Et j'avais une admiration en fait pour chacune d'entre elles. C'est un vrai plaisir hein, de bosser avec des actrices comme ça. J'ai l'impression de bosser. Non, mais c'est vrai. C'est...
Il y a eu des évidences tout de suite chez chacune d'entre elles.
Il y a eu des évidences pour chacune d'entre elles, mais en fait, je pense que je pense que le jeu est évident pour elles. Donc en fait, c'est ça, en fait. C'est l'évidence du jeu. Il y a quelque chose de très, moi, je voulais un film très naturaliste et généreux, mais naturaliste, et elles ont ça dans leur jeu.
Et justement, Mallory Wanek qui nous rejoint. Bonjour Mallory.
Bonjour, vous allez bien?
Oui, c'est qui joue le rôle de Carole, Mallory, qu'on a eu le plaisir d'avoir sur Comme un prince. Depuis quelle carrière, mais il s'en est passé des choses en 3 ans. C'est un tourbillon.
Et en même temps, ça me paraît tellement loin, parce qu'il s'est passé tellement de choses, et en même temps, j'ai l'impression que c'est passé tellement vite.
Ouais. Qu'est-ce qui t'a plu chez Carole en premier?
C'est que ça soit une histoire vraie, que ça soit un sujet intemporel, que ça parle à tout le monde, que c'était aussi la rencontre avec Mélissa qui m'a beaucoup plu. En fait, j'ai senti vraiment qu'elle avait envie de faire bouger les choses. En fait, elle fait pas du cinéma pour faire du cinéma, elle fait pas du cinéma pour juste le regarder, elle fait du cinéma pour faire bouger les choses et pour impacter les gens. Et c'est ça que j'ai aimé. Après, j'ai su avec qui j'allais tourner aussi, ça m'a fait extrêmement plaisir. J'avais hâte de rencontrer Kenza, Isia, Laura et tout. Puis après, c'est vrai qu'aussi braquer des banques,
faire ça. On peut faire ça qu'au cinéma.
Exactement. Bah, c'est le seul métier qui peut te permettre aussi d'aller rentrer dans une prison, de pouvoir demander à des gens de se mettre allongés. Ferme ta gueule, allonge-toi. Donc voilà.
J'adore la spontanéité de Mallory. Mélissa, moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire dans le film, c'est que malgré qu'il dure 2 heures, un peu plus de 2 heures, il n'y a pas un temps temps mort. On ne s'ennuie jamais, à aucun moment. Et on est complètement happé par cette histoire. Il y a une espèce, une sorte de fascination, quelque part. Est-ce que c'est aussi ce que tu as ressenti en écoutant, par exemple, Affaires Sensibles sur leur histoire?
Non, parce que, en fait, pas en écoutant, en tout cas, Affaires Sensibles. Affaires Sensibles, j'ai trouvé l'histoire absolument sidérante. Mais après, c'est ce que je vous disais, ce qu'elles m'ont livré derrière, ce qu'elles pouvaient enfin dire. Du coup, ça m'a donné beaucoup, beaucoup de choses qui étaient
beaucoup encore...
Beaucoup de matière. Beaucoup de matière, mais qui étaient encore plus intéressantes que les braquages. Mmh. En fait, dans le film, je ne pense pas que ce soit les braquages qui soient... Enfin, c'est la surprise, je pense. Et en fait, j'ai essayé, en fait, de trouver un point de vue, comme ça, d'être toujours, en fait, dans leur regard, avec elles. Et c'est ça, en fait, qui nous porte, je crois, jusqu'au bout. C'est ça qui fait que... Enfin, j'ai essayé de rendre... En fait, c'était pas important pour moi la durée. Je voulais que le film soit musclé. Je voulais qu'il soit radical. Et je voulais qu'on puisse avancer comme ça, sans jamais... Il pouvait pas y avoir de coup de frein possible.
C'est un parti pris de nous faire rentrer, nous, spectateurs, en empathie avec ces cinq filles.
Mais sans en faire des héroïnes. Elles auraient pas... Même les vraies
amazones... C'est pour ça que j'utilise pas le mot héroïne,
mais
justement.
C'est vraiment... Mais c'est ça. On a une empathie pour elles, parce qu'en fait, ça démarre d'une injustice sociale. Hélène reçoit une lettre de la CAF. Elle passe de 3000 francs à 31 francs par mois parce qu'ils ont fait une erreur de calcul sur plusieurs années. Donc ils font une erreur de calcul, mais c'est elle qui doit payer. Et donc cette erreur, voilà, c'est déjà le point de départ. Mais ensuite, il y a aussi la misère sociale autour, la misère aussi affective. Et ces cinq femmes, en fait, qui vont faire... Enfin, c'est quand même un film de grand banditisme. C'est quand même fou, en fait... de se dire qu'on a des mères célibataires comme ça qui, pour pouvoir nourrir leur enfant, en fait, vont braquer des banques. Mais pour autant, et je dirais pas plus que ça, parce qu'il faut voir le film, mais pour autant, comme je disais, on n'en fait pas des héroïnes.
Le personnage de Carole est un personnage qui a, on va dire, une relation avec ses parents très conflictuelle, difficile. Le personnage de Cathy, du coup, va prendre un peu Carole sous son aile.
Carrément. Ouais, c'est pour ça que je décide, parce que je suis la seule qui vient d'un milieu un petit peu plus aisé, entre guillemets, et c'est pour ça que je décide, malgré que j'ai pas de problème financier, que je décide d'aller braquer les banques avec elle. C'est que, en fait, c'est ma famille, et si ma famille sont en galère, j'hésiterai pas à venir les aider. Donc ouais, c'est vrai, elle a pris ce rôle de mère.
Ouais, c'est vraiment l'aide. On sent que le personnage de Carole, c'est plus une aide qu'elle veut apporter. On verra que ça sera pas toujours à son avantage par la suite.
Ouais, ouais. Ah bah ça, je vous laisse regarder le film pour comprendre.
Exactement. Puis se documenter, on peut aussi se documenter sur ce gant des Amazones, bien sûr, aussi. Mélissa, qui était à scène, que tu redoutais peut-être le plus?
Le tapissage, c'est le moment où, en fait, les accusés sont devant les témoins, et puis pour voir si on les reconnaît ou pas. Donc il y a les Amazones, et puis parmi les Amazones, il y a aussi d'autres femmes. Enfin voilà, c'est ça le tapissage. Ça, c'était très dur, parce qu'il se passe quelque chose que je ne dévoilerai pas, qui fait partie de la vraie histoire des Amazones. Et c'était important pour les filles, pour les vraies Amazones, de pas se tromper là.
Ouais, de transmettre l'émotion de cette forte situation, tu vois. On devait être à la hauteur de cette histoire folle.
C'est quoi ta scène préférée à toi, ou celle que tu redoutais peut-être le plus, Mallory?
J'en ai plein, je sais pas, tu peux pas me demander de faire un choix. J'ai adoré les 3 jours de tribunal où c'était une constante tension, où elles étaient, les vraies braqueuses, elles étaient dans le public, et puis on était dans le vrai tribunal, dans la vraie salle, et puis on devait écouter le juge, les plaidoiries, et en même temps j'ai kiffé braquer, faire les braquages, ça c'était plus kiffant, et en même temps j'ai kiffé le tapissage, et en même temps j'ai kiffé
Tout le film, quoi, là, il met tout le film. Mais c'est ça qui est génial. Le gang des Amazones, en tout cas, c'est un film à découvrir mercredi au cinéma. Dans un instant, on va continuer à en parler avec Izzy Aigelin et Kenza Fortas, Lina Koudry, Laura Felpin. Elles sont extraordinaires aussi. Il y a un équilibre, en tout cas, entre ces 5 comédiennes qui est absolument dingue. Et moi, je vous conseille vraiment d'aller voir ce magnifique film au cinéma. On termine par les projets. Mallory?
Moi, je suis dans le prochain film en avril. Je tourne le prochain film de Lola Kivron, qui va être un très, très, très beau film. Et des petites surprises par la suite qu'on verra, que je vais pas me porter l'œil.
Mélissa, alors là, tout nous sourit, à Hawaï, le gang des Amazones. À quand le prochain?
Bah, j'espère le plus vite possible. Il est écrit, je vais rentrer en casting, et puis il faut que les planètes s'alignent, comme d'habitude. Enfin, voilà.
Ouais. Et ben, en tout cas, on va déjà sortir le gang des Amazones mercredi. On va écouter la bande-annonce et on revient juste après. On récupère Izzy Aigelin, justement, avec Kenza Fortas, pour continuer notre spécial. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.
Merci. Merci beaucoup.
Ouais. Merci à vous. Merci beaucoup.
Allez, on enlève les chaussures. Dépêche.
En percevant trop d'allocations, vous avez contracté une dette. Vous devez rembourser.
Mais donc en fait, c'est vous qui faites une erreur et c'est moi qui paye.
C'est un cauchemar.
Venez, on braque le Crédit Agricole.
Qu'est-ce que tu racontes là?
J'ai bien étudié le truc. En 2 minutes, c'est plié.
Oula. Baisse la tête, baisse la tête, baisse la tête là. On parle de quoi là?
Mais on existe pour personne. On est des meufs. Et depuis quand des meufs ça braque?
Maman, tu peux garder les enfants?
Bouge pas! Ouvre! Qu'est-ce qu'il y a toi?
Qui a mis de sa vie d'avoir ici?
Personne.
Passe les yeux toi!
Allez!
Démarre!
Roule! Il y a eu un braquage ce matin. Vous étiez où, ce matin par exemple? Tu connais le gang des Amazones? Ça te plaît d'en faire partie?
Allez, de retour pour notre spécial Le Gang des Amazones. Ça sort mercredi dans les salles et on continue à parler justement avec l'équipe. Izia Higelin nous a rejoint. Bonjour Izia.
Bonjour.
Et Kenza Fortas également nous a rejoint. Bonjour Kenza.
Bonjour.
Merci d'être là toutes les deux. C'est le rôle d'Hélène et c'est le rôle de...
Malika.
Malika, voilà. Qui est la sœur du coup de Cathy, qui va être un peu un dommage collatéral dans cette histoire. Déjà, qu'est-ce qui vous a attiré toutes les deux dans cette histoire fascinante?
L'intensité du rôle, le scénario, l'envie de Mélissa, même si il y a cette histoire à raconter, c'est aussi voilà porté par Mélissa, par l'intensité du scénario. Moi, j'avais vraiment très très envie de jouer ce rôle et de partager cette histoire. C'est clair que c'était hyper excitant pour une actrice.
Kenza.
C'est vrai que l'histoire était tellement intense que je pense que aucune d'entre nous n'aurait pu refuser de jouer pour ce film-là.
Est-ce que vous avez senti, au fur et à mesure, vous avez lu le scénario? C'est quand même pas bien ce qu'elles ont fait, ces filles-là. Mais qu'on rentre tellement en empathie avec. Est-ce que vous l'avez ressenti dès la lecture?
Moi, j'ai rencontré d'abord Mélissa, qui m'a expliqué l'histoire avant que je puisse lire le scénario. Et j'ai direct eu une attache envers ces femmes-là parce que je me suis dit, ok, qu'elles font, c'est du banditisme. Ok, ce qu'elles font, c'est pas bien, c'est illégal. Mais elles font pas ça pour le plaisir, en fait. Elles font ça pour subvenir aux besoins de, surtout Hélène, de ses enfants.
Pour survivre, tout simplement.
Exactement. Et ça qui est fort, on voit qu'une mère est capable de tout, en fait, pour son enfant, quoi.
Izia?
De l'affection, énorme, enfin, de la tendresse, de l'empathie, évidemment, quand t'es face au mur, quoi, que tu sais plus quoi faire. Finalement, cette histoire, elle pourrait être racontée aujourd'hui, enfin.
Tellement contemporaine, finalement.
Complètement contemporaine. On oublie qu'on est dans les années 90, à part la gueule des bagnoles. mais en tout cas, je les vois aussi vachement comme une bande de jeunes filles. Il faut pas oublier qu'elles sont assez jeunes. On joue des personnages. Enfin, moi, je joue un personnage plus jeune que moi, ce qui n'est pas désagréable. Mais en tout cas, voilà, c'était quand même des jeunes nanas qui étaient face au mur et qui se sont engrainées ensemble dans cette histoire d'amitié aussi. Et évidemment qu'il y a de l'empathie. Mais il y a de la peine, il y a de la rage aussi. Beaucoup de colère, hein. Elles rigolent pas trop, hein, quand on les voit ensemble, hein, dans le film. C'est avant tout un film social aussi, on comprend qu'elles sont dans la merde, quoi.
Vous avez pu rencontrer vos homologues? Toi, Hélène, oui, je sais, ouais. Pour le coup, t'as pu rencontrer Hélène, Izia?
Oui, j'ai rencontré Hélène, c'était très...
Tu l'as chargé?
Ouais, c'était très chargé. On les a rencontrées le jour du tribunal, et en plus, on tournait dans le tribunal dans lequel elles ont été jugées. Et elles étaient dans le public. Donc en fait, elles nous regardaient jouer elles-mêmes pendant qu'elles essayaient de raconter. Enfin, c'était lunaire comme situation. Et puis on s'est tombé dans les bras. Cathy, quand elle nous a vus, enfin, elle me dit « Oh là là, mais tu marches comme Hélène ». Enfin, elle était vraiment troublée, Cathy. C'était la personne la plus troublée du groupe.
Kenza, t'as pu rencontrer Malika?
Oui, je l'ai rencontrée, pareil, le jour du procès. Ce qui est bizarre, c'est qu'on est totalement, totalement différentes dans la vraie vie. Et c'est pour ça que je me suis un peu approprié le rôle à ma manière, à moi. Mais c'est des femmes qui sont formidables, que ce soit Hélène, Cathy ou même Malika, quoi. Et je les adore, vraiment.
La rencontre entre vous cinq, on sent une alchimie, mais tellement forte. Avec Lina, avec Laura, Felpin. Vraiment, on sent que tout ensemble, vous faites bloc, même en tant que comédienne autour de cette histoire. On vous sent, en tout cas, même en tant que comédienne, hyper investie. Et ça, c'est vachement plaisant. Je pense que c'est ce qui va faire aussi, certainement, le succès du film.
On avait tout un souhait de vraiment raconter l'histoire au mieux et de vraiment porter ce film. Et on est cinq actrices quand même assez chargées émotionnellement. Je pense que, enfin, on a quand même une intensité.
En fait, on est toutes différentes, mais on a toute une histoire et je pense que ça se sent à l'écran. Et c'est pour ça que Mélissa, elle nous a choisi, quoi.
Ouais. Quelle a été la scène la plus difficile peut-être pour vous?
Moi, pour ma part, c'était le tapissage. Quand elles sont toutes alignées, toutes les cinq, et que les victimes les voient à travers la vitre. Pour moi, c'était une scène extrêmement chargée en émotions. Pour ma part, quand j'ai fini ma journée de tournage, j'arrivais pas à me décharger de toutes les émotions qui s'est passé sur cette scène-là. Quoi.
On voit la sidération sur le visage de Malika parce qu'elle comprend pas ce qu'elle fait là. Comme a dit, moi, j'ai jamais braqué qui que ce soit. Elle comprend pas finalement. C'est peut-être le seul personnage qui est vraiment un dommage collatéral de cette histoire. Mais on voit bien, tu l'as parfaitement joué en tout cas, Kenza, cette sidération sur le personnage.
Ben ouais, exactement. Malika, elle a rien à voir. Elle avait rien à voir avec tout ça. Elle s'est retrouvée dans l'engrenage par rapport à sa sœur. Et je pense que vu que c'est sa sœur, tu meurs, je meurs, quoi. C'est la relation fraternelle.
Famille. Isia, pour toi, la scène la plus compliquée?
Moi, c'était quand on a tourné en prison parce que c'était hyper intense pour moi. J'ai vraiment très très mal vécu le choc carcéral de la prison. J'ai dû marcher dans la cour devant les prisonniers qui étaient à leur fenêtre et tout. C'était une expérience incroyable. Même à un moment, je devais rentrer dans une cellule et fermer la porte. Je me suis retrouvée dans la vraie cellule de vraiment quelqu'un, quoi. Et c'était genre, je regardais tous ces objets.
Comme ouais. si on était vraiment en prison, quoi. Ouais, c'était assez choquant, mais c'était une expérience à vivre, quoi. Parce que je pense que dans la vraie vie, je touche du bois.
C'est ça qui est.
On n'est pas des bandits, donc on n'aurait jamais vécu ça, je pense.
Ouais, en tout cas, ça te donne pas envie d'y aller, hein, c'est clair.
La scène de tribunal est hyper longue, les réquisitoires, etc. La sentence, c'était éprouvant pour vous, ça, à jouer, ou justement, ça a peut-être été le plus simple, parce que jouer dans une prison, c'est pas simple quand même. Il y a plein de choses qui sont pas simples, et puis il y a vraiment ces personnages à fleur de peau, notamment pour le personnage d'Hélène. Il y a rien qui est simple finalement dans une histoire pareille.
Il y a rien qui est simple, mais le tribunal, encore une fois, c'était moi un de mes moments préférés, justement, parce qu'il y avait les filles qui étaient là, et je sais pas, quand on a fini ces 3 jours de tribunal, à ta vie, on a tous applaudi, on a hurlé. En plus, ça finissait sur le fait qu'on est...
J'ai pas kiffé le tribunal.
Toi, t'as pas kiffé, tu vois, c'est chacun sa propre.
C'est pas que j'ai pas kiffé, c'est que j'avais tellement la charge, en fait, malgré qu'elles étaient pas à côté de nous, mais les savoirs dans la salle, j'avais tellement la charge, leur charge émotionnelle, que je me suis dit, faut pas qu'on se loupe. Elles ont vraiment vécu ça. Je me mettais à la place des filles pendant ce moment-là, et c'est ça qui était le plus dur.
Ah ouais, ça t'a fait ça. Moi, je me rappelle, t'étais fatiguée, t'étais un peu comme ça, allongée. Ouais, je me souviens.
Chacun le vit de manière différente. C'est ça qui est intéressant. Vous êtes cinq personnalités différentes, 5 comédiennes différentes, et en plus 5 caractères différents de ces filles du gang des Amazones. Donc, j'imagine la complexité, en tout cas, de l'histoire. On va terminer par vos projets, les filles. La musique. Isia?
Ouais. Ben oui, bon, avant tout la sortie de ce film que j'attends vraiment avec impatience. Et puis ouais, je suis en train de préparer mon prochain album. C'est pas pour tout de suite, mais c'est en route. Enfin, c'est bien avancé, très très bien avancé.
Kenza?
Ben déjà la sortie du gang qu'on attend tous avec impatience, et je suis à l'écriture de mon premier long métrage.
En tant que réalisatrice?
En tant que pas réalisatrice mais scénariste.
C'est génial ça. Voilà. Bon, on sera là, j'espère. En tout cas, on aura grand plaisir à vous accueillir. Alors, on a entendu tout à l'heure la bande-annonce du Gang des Amazones. Ça sort mercredi dans les salles, on ne le rate pas évidemment. Mais comme Isia t'es là, moi j'ai envie qu'on t'entende chanter pour terminer cette émission. Alors on va écouter Cœur maintenant. Tiens, rien que pour toi, Cœur sur toi Isia. T'es prête? À très vite, merci beaucoup.
Ciao.
Allez Isia, Igelin, c'est Cœur, c'est maintenant dans Chez ton écoute la télé. Merci et à bientôt.
Merci.
Information continue. Aucune accalmie, pas une seule seconde. Mon cœur. Et ton battement s'accélère. Je vais finir par te perdre. Crache tes poumons, fais tomber la fièvre. Mon cœur. Si j'aime déjà fatigué par les coups qui te détraquent. Pas une fois elle t'a quitté. Cette foutue envie de te battre. Le moniteur et les électrocardiogrammes. Mon cœur. Je prends le plan.
par les coups qui te détraquent. Mais une fois elle t'a quitté, cette foutue envie de te battre fait sauter le moniteur, mon cœur. Un, deux, trois, je te crois quand tu portes à bout de bras.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on va vous parler de la série Désenchantée. C'est notre coup de cœur télé cette semaine qui débarque sur France 2. On a toute une partie du casting qui est avec nous. On va commencer par la productrice Carole Delavallée qui est avec nous. Bonjour Carole.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous. Notre ami David Oureg qui fait son retour. Une série par an. David, il n'arrête plus. Bonjour David.
Bonjour Alain.
Rivage l'année dernière, il nous emmène vraiment, vous allez voir, dans une histoire absolument fantastique qui s'appelle Désenchantée, avec deux héroïnes qui sont incroyables, vous allez voir, qui s'affrontent et qui à la fois sont absolument merveilleuses. Constance Labbé, la première des deux, est avec nous. Bonjour Constance.
Bonjour Alain. Merci de nous recevoir.
Écoute, c'est avec grand plaisir. Alors moi, j'étais fasciné quand je l'ai vu, à tel point que j'ai pas pu m'arrêter à la fin du deuxième. J'avais tellement envie de savoir. Heureusement que vous, spectateurs, vous avez déjà l'intégralité de la série sur France.tv, parce qu'autrement, ça va être très compliqué. Comment est venue l'idée déjà d'adapter un peu ce roman de Marie Vareille, Carole ? Qui c'est qui est un peu l'instigateur de ça ?
Alors c'est nous chez Banijé. En fait, on a lu le roman de Marie qui est sorti il y a quelques années maintenant. On a lu ce roman et très vite en fait, on s'est dit il y a une histoire à faire et à adapter. La chance qu'on a eue, c'est que on a rencontré Marie Vareille. Je pense que dans la journée même, peut-être le lendemain, on avait son accord pour adapter ce roman. Et puis ensuite, on a fait le travail d'adaptation, d'écriture. Et moi, je sais qu'à je savais déjà qui je voulais voir adapter le roman au scénario, c'est-à-dire que c'était Solène Le Priol à qui j'ai pensé en premier. Et je savais aussi que ça avait de la réalisation derrière, parce qu'on ne sait jamais si un projet va se vendre ou pas à une chaîne. Mais je savais que je voulais le proposer à David Oureg. Pour moi, il y avait tous les ingrédients pour que ça lui parle.
Alors ça, j'imagine que c'est un projet qui t'a plu, c'est un challenge qui t'a plu de suite.
Avant même de lire, déjà le fait de retravailler avec Carole, hein, qui a changé ma vie, littéralement, en tant que réalisateur, si elle est arrivée sur la saison 3 de Scam, hein, elle m'a permis de passer à Germinal juste derrière. Enfin, c'est des choses... À un moment donné, on sait d'où on vient et on sait qui permet de passer des paliers. Donc l'envie de travailler avec Carole était une priorité absolue. Et c'est vrai que quand j'ai lu le roman, j'ai compris pourquoi est-ce qu'elle me l'envoyait. On a, je pense, une sensibilité commune, un terrain émotionnel commun. Et tout de suite, s'est dessinée une série dont on rêvait, sous la plume de Solène. Et grâce à l'interprétation merveilleuse de ses interprètes, s'est dessinée la série dont je rêvais en tant que réalisateur.
Alors, on va y raconter l'histoire de Fanny et de Angélique, qui sont deux sœurs qui ne se sont pas vues depuis de nombreuses années. L'histoire commence par la disparition d'une jeune fille de 15 ans, Sarah Leroy. Et donc, tout le village va être absolument en émoi de cette disparition, parce que ça se passe dans un petit village fictif appelé Bouville-sur-Mer, qui est assez petit, où tout transite très très vite, comme information et désinformation d'ailleurs. Et donc, plusieurs années plus tard, en tout cas, Fanny va être missionnée pour aller écrire un papier sur la sortie de prison de celui qui avait été inculpé à l'époque, n'était d'autre que son beau-frère en quelque sorte, Eric. Donc elle va retrouver Angélique, sa sœur qu'elle n'a pas vue depuis évidemment plusieurs années. On va dire que les premières scènes avec Marie Desnarnaud sont un petit peu fraîches, ma chère Constance.
Ouais, fraîche, c'est un petit mot.
Ça fait remonter beaucoup de choses, en fait, le retour de Fanny pour Angélique.
Bah ouais, tout un passé qu'elle a, sur lequel elle a mis un voile, que c'est difficile de revenir, de penser. Et puis, de toute façon, je pense qu'il y a une relation très très forte de sœur à sœur entre ces deux femmes. Et donc, qu'elles reviennent, elles se présenter leurs enfants, qu'elles n'ont pas vu, qui ne se connaissent pas. C'est des choses qui sont dures.
Comment tu la définirais, toi, Angélique ?
Solide, courageuse. Je pense que c'est une femme qui a souffert, mais qui a une résilience absolue.
Qui essaie de se mettre une carapace un peu, j'ai l'impression aussi.
Ouais, qui essaie de se mettre une carapace, mais je pense que... Et en même temps, c'est aussi quelqu'un qui a eu le courage de rester là où elle a souffert, sur le lieu où elle a grandi, là où tous les événements se sont déroulés, donc elle n'a pas fui. Fanny, c'est peut-être... plus construit une carapace à travers une vie qu'elle a créée, qu'elle a recréée. Angélique, elle a accepté de rester là où, en fait, elle a le plus souffert. Ce personnage me touche particulièrement.
C'est vrai, c'est le premier mot qui me serait venu, moi, si on devait la définir Angélique, c'est touchante.
Tant mieux que ça soit le premier mot, parce que je suis heureuse que ça soit le premier mot que t'aies choisi. Moi, c'est le premier mot aussi que j'ai ressenti quand j'ai lu le scénario.
On écoute la bande-annonce, Désenchanté, ça débarque sur France 2. Vous allez découvrir les deux premiers épisodes et si vous n'avez pas envie d'attendre pour la suite, c'est déjà en intégralité sur France.tv. On écoute maintenant, à tout de suite.
Sarah Leroy, tu te rappelles de l'affaire ?
Bien sûr, mais ça a plus de 20 ans.
Angélique, vous aviez le même âge, non ? Tu la connaissais ?
Sarah Leroy, regarde-moi, c'est pas ça, Olympique, juste pour toi.
Qu'est-ce qui s'est passé entre vous ?
Tu prends tes distances, j'espère. Sinon, on va croire que tu cautionnes ces mensonges.
À très bientôt, Angélique. Pourquoi l'assistant de Sarah Leroy écrit à ta mère ?
Je ne suis pas.
C'est une petite ville, tout le monde se croise.
Dégage !
Un coup de fil et je te renvoie une tôle.
Tu sais, je veux vraiment découvrir ce qui arrive à Sarah Leroy. C'est pas un jeu pour moi. J'arrive pas à écrire mon article. Je reviens toujours à un souvenir précis.
Écris la vérité. Dis comment je me suis fait piéger. Je croyais qu'on se disait tout. Commentaire, c'était pour les lâches.
Désenchanté, ça débarque sur France 2. David, alors, il y a des allers-retours sans arrêt entre 1998-99 et 2025. Comment on organise un peu tout ça ? Est-ce qu'on tourne toute une époque d'un coup ? Est-ce qu'on oscille un peu dans les décors ? Comment on fait ça ?
Il y a l'idée de départ hein, qui est de tourner chronologiquement, de commencer par le passé pour aller vers le présent. Ça, c'était l'idée noble de départ, en disant le présent sera chargé de ce qui s'est produit. Et après, il y a la réalité d'un tournage avec des disponibilités à organiser de la meilleure des manières possibles. Mais ce qui a été assez magique sur ce projet, c'est d'avoir trouvé des interprètes, adolescentes et adultes, qui se répondent à ce point sur le même terrain sensible. La série est assez étonnante à ce niveau-là. On n'aide pas le public, on lui prend pas la main, on met pas des dates et on passe dans le premier épisode de façon assez claire dans les époques avant, dès le deuxième épisode, d'être plus ambitieux.
Chaque personnage est très identifié dans son époque finalement. Chaque comédienne qui l'incarne est très ancrée, donc on voit tout de suite ce changement d'époque du coup quand on suit.
C'était assez magique, c'est quelque chose que j'avais très précisément en tête, même au-delà du scénario qui était magnifiquement écrit, mais j'avais très envie de passer d'un plan du passé à deux plans du présent et d'y revenir. J'avais très envie que le public ressente que le passé impacte le présent naturellement, mais que le présent aussi dans la série impacte le passé à sa manière. Ce qui fait qu'on a un sentiment très organique, très de mouvement continu, et ça a été assez magique au montage. Autant au tournage, parfois on me regardait en disant « qu'est-ce qu'il fait ?» Autant au montage, ça s'est éclairé, je pense, de façon très organique.
Carole, est-ce que si on lit le roman, on sait exactement ce qui va se passer dans la série, ou est-ce qu'il y a vraiment des surprises dans la série ? Est-ce qu'il y a des petites lignes qui bougent quand même ?
Il y a des lignes qui bougent. La plus simple des choses, la description physique d'Angélique. Constance est à l'opposé physiquement de la façon dont est décrite Angélique dans le roman. Bon, ça c'est un détail. Mais il y a par exemple un personnage qui a été totalement inventé par les scénaristes par rapport au roman. Le personnage d'Eder, par exemple, il n'existe pas dans le roman.
Le fils d'Angélique dans la mini-série.
Exactement. C'est vrai qu'on peut se dire, avoir un roman, évidemment, ça aide parce qu'on a un début, on a une fin, et là, en l'occurrence, on respecte tout ce qui a été écrit dans le très beau roman de Marie Barreille. Il n'empêche que faire une adaptation pour la télé, c'est pas si simple, et il faut remettre beaucoup, beaucoup de choses à plat. C'est pour ça aussi que c'est un autre travail de la part des scénaristes, et il y a effectivement des choses à mettre de côté, qu'on aime bien pourtant dans le roman, et puis des choses qu'on va inventer. Donc il y a quand même quelques surprises.
Constance, Désenchanté, on va expliquer un peu quand même aux gens pourquoi, sans trop en dire aussi. C'est le surnom que s'est donné donc un groupe de filles pour défendre ses valeurs, pour défendre plein de choses dans leur vie aussi. C'est quelque chose, voilà, vous allez voir, de très fort comme sujet, que vous allez découvrir en tout cas grâce à ces Désenchantés. C'est un groupe soudé en fait, les Désenchantés. À la vie et à la mort presque.
À la vie, à la mort. C'est ce qu'on peut retrouver, je pense, dans l'amitié de magique. On se recrée nos familles. Moi, j'avais ça. J'ai rencontré deux amis au CP qui sont mes deux meilleurs amis aujourd'hui, pour lesquels j'ai un amour qui est très très important, parce qu'on s'est littéralement choisi à 6 ans. Je pourrais mourir pour elles. Je pourrais les défendre bec et ongle. J'ai pas de sœur, donc c'est aussi des. Je pense que quand on n'a pas de frère ou pas de sœur, les amis, c'est quelque chose de très 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 précieux. Même quand on en a d'ailleurs, c'est très très beau, je trouve, dans la fiction, l'amitié. Je trouve que c'est même pas assez représenté. L'amour amoureux est très représenté en fiction française, en tout cas, l'amitié moins. Marie, elle a écrit une histoire vraiment d'amitié, de défense de ses amis, qui est extrêmement touchant. Et je trouve que Carole a été très inspirée de l'adapter, et David l'a très 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 bien filmé. Je pense que c'est pour ça que c'est aussi touchant.
David, t'avais lu le livre avant ou pas?
Bien sûr, j'ai commencé par faire mes devoirs. J'avais été très touché par le livre. Et pour répondre à une de tes questions précédentes, je pense que les deux œuvres sont complémentaires. Marie Vareille, quand elle a vu la série, ça a été sa réaction en fait. En disant, on a épaissi nettement des endroits qu'elle avait laissés dans l'ombre. Et on a rendu justice, je pense, au message fort du roman. Donc en tout cas, aimant beaucoup le livre, étant très fier de la série, je trouve que les deux se répondent à des endroits différents et ça me comble.
En tout cas, ce qui est très bien, c'est qu'on aura toutes les réponses aux questions que vous vous posez. Eric est-il victime ou bourreau? C'est ce qu'on découvrira. Est-ce que Sarah Leroy, qui a disparu, que lui est-il arrivé? Que s'est-il passé? Toutes les questions, en tout cas, enfin du moins la moitié pour cette semaine et l'autre moitié la semaine prochaine, dans Désenchanté qui débarquera 21h10 sur France 2. Merci à tous les trois d'être passés nous voir. On continue à en parler évidemment la semaine prochaine. Ça nous passionne en tout cas cette série. Merci beaucoup David, merci Constance et merci Carole. À bientôt.
Merci.
Merci, merci beaucoup.
À très vite.
Bouge pas, bouge pas. Chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. A tout de suite. Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé.
1h du mat, j'ai raté ton appel. J'avais 1000 téléphones de côté. C'est pas 1 heure où viennent les bonnes nouvelles. Tu me dis de pas m'inquiéter. Je sais que tu ne veux jamais déranger. Mais je veux pas que tu pleures en secret. 1h du mat, c'est moi qui te rappelle. Mais tu n'as pas décroché.
Rappelle-moi si tu te sens seul. Appelle-moi si tu as peur que ce soit trop. Puisqu'on se connaît par cœur, je saurai même si tu n'as pas les mots. N'oublie jamais que t'es belle. Je les traverse comme les miennes. Rappelle-moi si tu te sens seul. Tu seras jamais seul.
1h du mat, le cœur un peu en peine. Je sais pas comment en parler. J'ai tenté de tout dire en un appel. J'ai préféré raccrocher. Je sais que je vais jamais déranger. Entre nous rien n'a changé. 1h du mat, ça tourne dans ma tête. Mais je veux pas t'inquiéter.
Rappelle-moi si tu te sens seul. Rappelle-moi si tu as peur que ce soit trop. Puisqu'on se connaît par cœur, je saurai même si tu n'as pas les mots. N'oublie jamais. Si tu te sens seul, appelle-moi si tu as peur que ce soit trop. Puisqu'on se connaît par cœur, je saurai même si tu n'as pas les mots. N'oublie jamais que t'es belle. Je les traverse comme les miennes. Appelle-moi si tu te sens seul. Tu seras jamais seul.
Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Prisonnière. Vous allez découvrir un téléfilm inédit qui sera diffusé cette semaine sur OCS Ciné Plus avec Chloé Gavard, la productrice qui est avec nous. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Et une habituée de l'émission qu'on a toujours plaisir à recevoir, Mélanie Bernier, qu'on adore. Bonjour Mélanie.
Bonjour tout le monde.
Merci d'être là. Alors, on va voir quelque chose qu'on a très très peu vu en fait, hein, que ça soit au cinéma, à la télévision, une espèce de huis clos un peu étouffant. On va être immergé, nous téléspectateurs, au cœur d'un carambolage où le personnage de Mélanie va essayer de se sortir, mais avec quelques séquelles, on va dire, qui va faire qu'elle va pas se souvenir de tout ce qui se passe. Comment est venue l'idée, en tout cas, de Prisonnière déjà, pour commencer, Chloé?
Eh ben, c'est l'idée de deux scénaristes à la base, Jean-Luc Cano et David Morlaix, qui avaient imaginé ce concept d'enfermement d'une héroïne enfermée dans cette voiture après un accident. Et ensuite, le scénario a été écrit par une scénariste qui s'appelle Magali Rossito, qui a écrit toute la trajectoire de ce personnage, parce que Vous l'avez très bien pitché, c'est l'histoire d'une femme qui se réveille au milieu d'un carambolage et qui est coincée dans sa voiture, mais c'est aussi l'histoire d'une femme qui a perdu la mémoire à cause du choc et qui, au-delà de sa survie, de l'urgence de sortir de la voiture, va devoir partir à la quête de son identité. Et on va se rendre compte qu'elle n'est pas que prisonnière de cette voiture, mais aussi prisonnière de sa
mémoire. Son amnésie, voilà, de sa mémoire.
Et de traumas anciens.
Mélanie, qu'est-ce qui t'a plu en premier dans le projet ?
Tout le challenge que proposait ce projet, autant dans le film dans sa globalité que le challenge que moi je pouvais avoir en tant qu'actrice. Et d'ailleurs, quand j'ai lu le scénario, pour moi, ça a tout de suite été oui. Bien sûr, j'avais besoin de rencontrer le réalisateur parce que c'est très important d'en parler avec le réalisateur, mais juste sur le script, pour moi, c'était un cadeau énorme de pouvoir lire ce film-là. C'est des cadeaux qu'on nous offre dans la vie. Donc Chloé m'a fait un gros cadeau.
Tout passe en fait par les émotions, le visage, tu te parles toute seule. Enfin, il y a vraiment voilà des scènes qui voilà, tu découvres ton mari à côté, en fait, tu sais pas qui c'est. Enfin, il y a plein de choses qui passent par ton visage, le regard, c'est hyper compliqué à faire ça.
Ben, je sais pas si c'est compliqué, c'est mon métier. En tout cas, la difficulté, c'est que ça demande beaucoup de technique, ce film, parce que en fait, donc ça, c'est heureusement maintenant, je suis une vieille de la vieille. Donc mon expérience fait que voilà, mais c'est très technique, tous les mouvements que vous avez, etc. Ça demande quand même pas mal l'expérience un peu malgré tout de la caméra. Et il fallait trouver ce fameux lâcher prise qu'on doit toujours trouver dans le jeu, mais là particulièrement. Et ça, c'était un de mes challenges. C'était, je me disais, est-ce que je vais complètement réussir à être libre, à me libérer, à pas essayer de contrôler les émotions. Et je pense que c'était ça pour moi l'enjeu sur ce film, pour que le film réussisse. Puisqu'au début du film, quand le spectateur découvre le film, je pense qu'on est tous pareils. En fait, on se met à la place de cette fille. On pourrait tous se retrouver à sa place. Dans une voiture, on a un accident et on peut pas sortir. Qu'est-ce qui se passe? On a un mec mort à côté de nous. Comment on réagit? Et donc, je pense que ça, c'était un peu le challenge. Et c'est ce que j'aimais dans le scénario, c'est que je trouvais que le rôle, il était tout de suite intelligent. Ce que fait ce personnage, moi, c'est ce que je ferais. Et j'imagine que tous, on est... Alors que parfois, ça peut nous sortir. On se dit, bah, elle est con ou quoi? Il suffit qu'elle fasse ci ou ça. Donc, voilà. Et ensuite, on part dans son histoire avec elle. Une fois qu'on se rend compte, qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas la mémoire, là, tout d'un coup, le spectateur n'est plus lui, ni s'identifie plus lui-même, je crois, mais vient avec elle et rentre dans son univers à elle.
Que cette espèce de huis clos permet aux spectateurs complètement de s'immerger dans la voiture. Du coup, avec Mélanie, c'est ça qui est assez dingue techniquement. Est-ce que ça crée des difficultés particulières, Chloé ?
Complètement, mais de la contrainte naît de la créativité, et c'était ça l'enjeu sur ce film. Effectivement, c'était un pari d'embarquer les spectateurs pendant 1h15 dans cette voiture, dans ce tunnel. Et oui, c'était un vrai défi technique. Comment, en mise en scène, le réalisateur Valentin Vincent a été assez brillant pour penser la mise en scène, pour rester avec le personnage, surtout. En fait, l'enjeu, c'était d'être avec le personnage. C'était surtout ça le plus important. Et
la caméra est toujours au plus près, oui.
Exactement, et en plus, plus le film avance et plus on rentre dans sa quête intime, on sent la caméra se rapproche de Mélanie et on est embarqué avec elle. Mais clairement, il y avait un vrai défi technique. On a tourné ça en studio, on a construit un tunnel. Voilà, on a entouré notre voiture de jeu, de vraies voitures carambolées. On a vraiment tourné avec un sentiment d'être dans
la véracité.
Ouais, exactement, dans un décor réel. On s'y croyait vraiment et on s'est servi de ces contraintes pour nourrir la créativité, la mise en scène et surtout. Pour voilà, être au plus proche du personnage et de Mélanie. Et je crois que le film en ça est réussi.
Alors, j'ai une pensée émue, moi, quand même, pour François-Dominique Blain, à côté. Le pauvre, parce que franchement, il a dû en baver. Et puis, même pour toi, parce qu'il ne faut pas être claustro, quoi, dans ce genre de situation et de scène.
Oui, alors moi, j'étais pas. Alors, déjà, François-Dominique, ça a été un allié exceptionnel. Parce que accepter de jouer un mort pendant une grande partie du tournage, pas tout le monde l'aurait fait. Et je pense qu'il a bien fait, parce que du coup, en fait, son personnage existe vraiment au final. Mais on tourne 12 jours et il y a 10 jours dans la voiture où là il ne bouge pas, et donc après voilà, il y a 2 jours, enfin il y a de l'intérêt, mais on va pas trop vous spoiler. Et après, c'est marrant parce que moi je suis pas claustro du tout, donc moi la voiture, j'arrivais, c'était mon cocon, hein, donc je me suis jamais sentie bloquée dans cette voiture. C'était mon endroit, en fait. C'était un peu l'endroit où on n'avait pas trop accès à moi, parce que c'était difficile pour l'équipe technique. Donc en fait, je me sentais assez protégée, je crois, dans cet endroit. Ce qui était un peu dur, c'est que on était dans un tunnel, quoi, et on voyait
pas la lumière de la journée. Et donc, on arrivait le matin, je sais pas, à 7h30, 8h, on en ressortait à 19h, et j'avais pas vu le soleil. Ça, pour le moral, on tournait à Marseille, en plus, comment vous dire qu'on a les boules. Mais voilà, c'était peut-être ça un peu la, pour moi, ce qui a été, par rapport aux conditions, le truc peut-être un peu plus frustrant. Mais je me suis pas sentie claustro.
Vous allez découvrir en tout cas un film d'un nouveau genre, un espèce de huis clos haletant, où évidemment on n'attend qu'une chose, hein, c'est que elle retrouve peut-être la mémoire, puis surtout qu'elle arrive à sortir de cette voiture. On est avec toi Mélanie, on est à fond avec toi en tout cas, puisque là pour l'instant Prisonnière, vous allez pouvoir le découvrir donc sur OCS Ciné+, puis bien sûr aussi après la demande, bien évidemment si vous l'avez raté en direct télé. Mélanie, les projets ? Pour la suite, qu'est-ce qui t'attend pour fin 2025, début 2026?
La diffusion de... Enfin, j'ai fait la saison 2 de Daron.
Qui est une série Didier Bourdon.
Avec Didier Bourdon. Donc voilà, la saison 2 de Daron est Prisonnière et rien d'autre pour le moment.
Ça va venir. Et puis, il y a peut-être une nouvelle saison. En tout cas, le Daron, c'est la saison 2 qu'on va bientôt découvrir, évidemment, aussi sur TF1. Merci, Chloé, aussi, d'être venue nous voir. On se dit à bientôt.
Merci beaucoup. À bientôt.
Merci, Mélanie.
Merci.
La bande-annonce de Prisonnière, c'est maintenant. Retrouvez donc Prisonnière sur Ciné+ Frisson, ça sera jeudi à 20h50 à ne pas manquer, avec Mélanie Bernier pour la retrouver également pour la saison 2 du Daron. Ça sera dès le jeudi 20 novembre aux côtés de Didier Bourdon.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, coup de cœur cinéma également cette semaine pour le film On vous croit, premier film de Charlotte de Villers et Arnaud Dufay. Charlotte est avec nous justement pour en parler. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Premier film, évidemment. J'imagine la pression qu'il peut y avoir là, deux jours de la sortie, surtout sur un sujet aussi important. Il a été présenté au Festival du film de Sarlat la semaine dernière. Et c'est vrai que ça a été un véritable carton au niveau du débat à la fin. Beaucoup de questions sont venues se poser à la suite de la projection, puisqu'on va y suivre une véritable décortication judiciaire d'une maman et d'un papa, de deux jeunes enfants qui vont passer devant le juge pour essayer de retrouver la garde peut-être des enfants, mais lui est sous le coup d'une accusation en tout cas d'attouchement sexuel sur son fils, de viol même, hein, on peut le dire clairement. Et c'est vrai que voilà, c'est un sujet lourd mais à la fois nécessaire, et j'ai trouvé qu'il était traité de façon très intelligente en nous montrant des fois dans les réquisitoires des avocats simplement le visage par exemple de la maman, du papa, de ce qu'il pouvait exprimer pendant que les avocats s'exprimaient. Il y a plein de petites choses comme ça au niveau du montage, en tout cas ils sont très bien faits. Moi Charlotte, la première chose que j'ai envie de vous demander, c'est quand on fait un film comme celui-ci avec un sujet aussi important, comment ça vient ?
Alors ça vient simplement d'une urgence. Je pense qu'il y a urgence aujourd'hui à parler de ces sujets-là, à évoquer, plus qu'évoquer, à mettre les choses sur la table et à arrêter de les laisser sous le tapis et nier la parole des enfants et nier cette problématique de l'inceste. L'inceste, c'est l'interdiction de parler, c'est le poids du secret, c'est le déni. Et on a eu la possibilité avec Arnaud d'obtenir un financement en Belgique de films en production légère qui nous a permis de rester dans cette notion d'urgence, puisqu'il fallait rendre le film en 2 ans simplement. Donc pour nous, c'était le bon moment et le moment de parler de ce sujet-là. Et on le voit bien aujourd'hui, avec toutes les prises de parole, que c'est un vrai sujet qu'il va falloir mettre en avant et regarder en face.
Alors, ce qui est assez impressionnant, je trouve, c'est un huis clos. Et à la fois, nous qui sommes de l'autre côté de l'écran, quand on entend des fois les avocats, surtout l'avocate du papa, quand on entend la juge, quand on voit la maman et l'expression, eh bien nous, on est derrière l'écran, en fait, on a envie de leur dire. C'est nous qui avons envie de nous exprimer, alors qu'on sait que dans ce genre de choses et devant un juge, chaque personne a le droit à la parole à un moment donné, mais ne doit surtout pas parler tant que la parole ne nous est pas donnée. Et nous, pourtant, malgré que c'est un huis clos, téléspectateurs, on a envie de rentrer dans tout ça. Et ça, c'est assez magique quand même d'avoir réussi à faire ça.
Oui, nous, on voulait vraiment mettre le spectateur à la place presque de la juge. C'est-à-dire, même s'il est un peu en décalé derrière elle, c'est lui qui va recevoir aussi cette parole-là. Donc, c'est le parcours de cette maman, Alice, lors d'une matinée d'audience, qui doit entendre et qui va entendre toute sa vie défiler, la vie avec ce compagnon qu'elle a eu et
qui va devoir refaire face à ce compagnon.
Exactement, parce que le dispositif dans ces endroits qu'on ne voit pas, puisque c'est des endroits fermés en huis clos comme vous l'avez dit, en réalité chaque personne est l'un à côté de l'autre et en, notamment là le père et la mère se retrouvent très proches l'un à côté de l'autre à devoir supporter la présence de l'autre alors que on n'aimerait pas être à côté nous-mêmes de son violeur. D'ailleurs, elle le dit très clairement. Pourquoi mes enfants, on les oblige à le faire, d'être à côté d'eux, de rencontrer le papa. Voilà, en effet, vous avez extrêmement raison de dire, nous, on a envie de crier, de répondre à la place de l'avocat des enfants, qui est extrêmement violent dans ses propos. Mais chaque personnage existe réellement. On n'a rien, presque rien inventé. Je veux dire, c'est des personnes qui sont là, qui représentent la justice et qui changent la vie des familles.
Vraiment, mention spéciale pour Myriam et pour Laurent qui s'affrontent dans ce huis clos, le papa et la maman. Myriam est absolument saisissante, on souffre avec elle. Elle a des expressions de visage qui sont des fois filmées non-stop pendant une minute trente, voire deux minutes, où il faut que son visage retranscrise tout simplement en fait l'expression de ce qu'elle ressent à l'écoute de ce que peut dire la juge ou son avocate ou l'avocat des enfants aussi. On apprend plein de choses finalement. On s'aperçoit que l'avocate de la maman et l'avocat des enfants, c'est pas le même. Et même eux se font face aussi et n'ont pas forcément la même lecture des choses. C'est extrêmement enrichissant de pouvoir voir des films comme ça en tout cas.
Oui, c'est vrai que nous, notre terrain de jeu, c'est le visage d'Alice, c'est le visage de Myriam. Et pour nous, c'était évident que c'était Myriam Akeddu qui allait représenter cette mère et cette mère protectrice parce que, alors Arnaud avait déjà travaillé avec elle, moi je l'avais vue dans des films et pour nous ça a été une évidence que ça soit elle, on avait envie de la voir dans ce rôle-là et en effet elle le fait d'une façon extrêmement juste. Alors Arnaud avait déjà travaillé avec elle, moi je la connaissais sur d'autres jeux et c'est vrai que en tant que soignante j'ai pu lui apporter aussi toute cette réalité par laquelle les victimes passent et qu'on peut voir sur son visage en effet sur des temps très longs comme vous dites où elle est obligée d'entendre mais même d'entendre tout son parcours amoureux aussi avec ce père qu'elle a aimé, avec qui elle a fait des enfants et qui aujourd'hui a commis l'impensable parce que c'est impensable de penser l'inceste.
Et en plus, elle le dit très très bien. Comment j'ai pu tomber amoureuse d'un homme qui est capable de faire une atrocité pareille, quoi.
Bien sûr. Et puis, elle dit aussi, au début, j'ai pas voulu y croire parce que c'est impensable. Et ça, je pense que c'est extrêmement important de se dire que ces mères protectrices, et elles sont nombreuses, parce que lorsqu'on connaît les chiffres, hein, c'est 160 000 enfants victimes d'inceste et de violences sexuelles chaque année en France. Donc il y a aussi toutes ces mamans qui accompagnent ces enfants-là. Et c'est vrai que de se dire que ces mères, et on le voit, il y a Mélissa Torio qui vient de sortir un documentaire qui s'appelle « Mères en lutte », et c'est exactement, c'est toujours les mêmes parcours. C'est toujours les mêmes souffrances, c'est systémique. Donc pour nous, c'était vraiment très très urgent et important de les mettre en avant et de faire en sorte que ces mères protectrices soient aujourd'hui entendues juste parce que leur travail, c'est de protéger leurs enfants et de mettre en avant et de porter la parole de leurs enfants simplement puisqu'on ne les écoute pas, ces enfants.
Les chiffres sont alarmants, les chiffres qui sont notés à la fin du film, 10% des enfants aujourd'hui font face, c'est des chiffres belges ou est-ce que c'est des chiffres globaux qui englobent la France et la Belgique, enfin les pays francophones?
Alors là, à la fin du film, c'est des chiffres globaux, c'est les chiffres de l'OMS, mais c'est vrai que ici en France, on sait donc que c'est 160 000 enfants victimes d'inceste et de violences sexuelles chaque année en France, c'est 3 enfants par classe. C'est un enfant toutes les 3 minutes. Pendant la durée du film, il y a 40 enfants qui sont violés. C'est ça les chiffres. Et cette violence-là, je sais que c'est extrêmement violent de dire ça et presque on n'a pas envie de les entendre. Et ils sont certainement sous-côté, quoi, j'ai envie de dire, parce que c'est des chiffres qu'on connaît. Mais tous ceux qui ne parlent pas.
Seulement 2% des plaintes aboutissent.
Oui. Alors, ça, c'est une réalité. Souvent, les dossiers sont classés sans suite. Et lorsqu'on porte plainte, les plaintes n'aboutissent pas. Les personnes vont en prison. Simplement, en revanche, les mères, elles peuvent aller en prison. C'est-à-dire, une maman qui tente de protéger son enfant va porter plainte. Elle risque de perdre la garde de ses enfants et elle risque d'aller en prison. Une maman qui ne porte pas plainte risque de perdre la garde de ses enfants et risque d'aller en prison. Tout repose sur la mer. La responsabilité, c'est sur la mer. Et dans le livre de Romane Brizard, Inceste d'État, c'est exactement la même chose qu'elle dit. La responsabilité, c'est sur les mères, alors que les mères sont victimes.
Ce qui est assez terrifiant, et Laurent le joue très très bien d'ailleurs hein, dans le film, c'est que jusqu'à un moment donné, on a presque envie de le croire. Ils sont tellement persuasifs. Alors dire « je n'ai rien fait », ils n'arrêtent pas de le répéter. Et on a presque envie effectivement de croire ce personnage du papa jusqu'à certains moments. Évidemment, il y a un switch qu'on vous révélera pas dans le film, mais que vous verrez. Mais en tout cas, on comprend quand même que voilà, il se passe quelque chose, c'est pas une bonne personne. Mais c'est vrai que c'est difficile pour un juge de décortiquer le vrai du faux dans ces histoires-là.
Bien sûr, et puis c'est souvent, voilà, comme je le disais là à l'instant, c'est une matinée d'audience, tout va se passer ce moment-là, donc c'est extrêmement important pour la famille, c'est extrêmement important pour les enfants, et bien souvent, ils ont tellement peur d'aller à cette audience parce que tout peut changer, que ça prend une place très très importante ce jour-là et cette réalité-là. Pour la question du père, et notamment avec Laurent Capelluto, c'était compliqué de se dire comment on va lui expliquer comment il va falloir jouer ce rôle-là. Et en effet, la question du doute, nous, on lui a dit très clairement, tu n'as pas commis l'inceste. Parce que c'était beaucoup plus simple. Et parce que je pense que le fait d'être dans le déni, le père pense qu'il n'a pas commis. Alors, évidemment, il y a une partie de lui qui sait qu'il a commis l'inceste. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la confusion. Et il va tout faire pour ne pas perdre la face, en réalité.
Un film nécessaire qu'on vous invite en tout cas à aller découvrir mercredi au cinéma. Ça s'appelle On vous croit. Premier film de Charlotte de Villers et Arnaud Dufay qu'on vous conseille évidemment d'aller voir. Et n'hésitez pas en tout cas. Voilà, il existe plein de solutions possibles pour dénoncer en tout cas ce genre de choses, ce genre de violences sexuelles et d'inceste. Il y a des numéros de téléphone qui sont aussi en place.
Voilà, le 119, il y a des associations, Mouv' Enfants, Soutien Civise qui existent, les plannings familiaux, les centres de santé sexuelle, les centres de médico-social, il y a des soignants. Mais pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des places dans le soin, il faut qu'il y ait de la formation aussi du personnel, il faut de la prévention, il faut en parler. Et il existe des outils essentiels qui nous aident aussi à parler aux enfants, qui nous aident à poser les choses de façon très claire pour que les enfants puissent avoir les codes, et notamment les livres de Maïlan Chapiron qui sont Le loup, Interdit de me faire mal, C'est mon corps, qui sont vraiment des livres à portée d'enfants et qui nous permettent de réfléchir ensemble sur quel monde on veut ouvrir à nos enfants aujourd'hui.
Merci beaucoup Charlotte, on va terminer par la bande-annonce et n'oubliez pas, voilà, à partir du moment où on libère la parole, c'est sûr, on vous croit. Merci beaucoup Charlotte.
Merci à vous.
Surtout ce qui est important madame, c'est vraiment, essayez de pas montrer que vous hésitez. Soyez bien convaincue, convaincante de tout ce que vous dites. Pensez à ce que vous allez dire.
Maman, tu crois que papa va s'asseoir ici?
Non, mon cœur, il ne va pas s'asseoir ici. On a demandé pour qu'il soit assis ailleurs. Ok?
Donc c'est madame la juge qui peut prendre des mesures concernant les enfants.
À quoi elle peut me les enlever?
Je vais commencer par un résumé succinct de ce qu'ont dit les enfants. Lorsque je demande à Étienne s'il peut décrire ces images, il reste très évasif.
Madame Piron alimente chez les enfants cette volonté de rompre complètement la relation avec leur papa.
Moi, je comprends pas. Et je suis très inquiet pour les enfants. Je comprends pas ce qu'on me reproche, en fait.
Oh, ils sont où?
On les a installés dans une autre salle. Vous inquiétez pas, c'est la procédure.
Je veux voir mes enfants.
C'est normal.
Je veux voir Étienne.
Je pensais que j'allais être soutenue, quand en déclarant les faits, j'allais être encadrée, quoi, soutenue, protégée, accompagnée par la justice, par mes proches. La plupart des gens préfèrent penser que ce que mes enfants ou moi nous disons est faux, que nous mentons, plutôt que de croire en ce que nous avons vécu.
« lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain dans Chute, on écoute la télé, on aura le grand plaisir de recevoir Aurélie Vanek. Elle vient d'arriver dans Ici, tout commence avec une toute nouvelle famille à laquelle on va évidemment bien s'accrocher. Rendez-vous donc lundi prochain avec notre amie Aurélie. Puis spécial extra lucide, Sabrina Ouazani sera avec nous, oui, pour en parler, bien évidemment.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Hey, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de peaux gourmands Jade et Ali, disponible dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Chute, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.